Radio Sport, Radio Sport.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à 100 jours du grand départ de Florence en Italie, en Toscane, du 111e Tour de France. Ce sera le 29 juin prochain, à vivre bien sûr, en direct, en intégralité sur Radio Sport, avec toute notre équipe qui se prépare déjà. Ils sont à fond côté cuissard, ça roule de tous les côtés, même vers Paris, hein. On tourne un peu à droite à gauche. Jérôme Armand, Fabrice Arad, la voix du Tour, avec Étienne Bonamy, puis le petit nouveau Thomas Verguen, que nous allons retrouver évidemment tout à l'heure en fin d'émission avec son nouveau site Vélo Wire. D'ailleurs, cette émission sera retransmise également en direct comme nous le faisons ce matin, puis vous retrouverez bien sûr ensuite en replay quand vous le souhaitez cette émission. On va parler évidemment de tout ce qui concerne le Tour de France avec de grands invités, notamment la légende Jean-Paul Olivier qui va nous rejoindre, et on parlera château de l'été, et puis un de nos confrères fans du Tour de France, Axel May, sera avec nous, lui qui a travaillé longtemps notamment à Europe 1 pour suivre cette course à étapes que l'on adore tous bien sûr, cette fameuse grande boucle. Mais sans plus tarder, pour se mettre vraiment dans l'ambiance, quoi de mieux que de se diriger vers la direction du Tour de France, vers le siège du Tour, où nous attend son grand patron, Christian Prudhomme. Et vous le savez, plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. France, J-100, invité exceptionnel pour débuter cette émission, vous le disiez, Christian Prudhomme sur Radio Sport. Bonjour Christian.
Bonjour Christophe.
On est ravis, on est en pleine forme, on a 100 jours. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour un patron du Tour de France 100 jours avant le départ d'un grand tour comme celui-ci?
Ben déjà se rendre demain et après-demain à Florence précisément pour fêter les 100 jours. Ce sera, vous le savez, le premier grand départ d'Italie, ça n'est jamais arrivé. 100 ans exactement après la première victoire d'un coureur italien, Ottavio Bottecchia. Donc il y a toujours toute une série de réunions. En ce moment même, d'ailleurs, il y a une réunion avec le préfet de Nice et les autorités de Nice pour tout simplement confirmer tout ce qui est déjà étudié et pour le décider et le formaliser. Donc c'est un processus classique qui va de début novembre après l'annonce de la présentation du Tour jusqu'à la fin du mois de mars, de ville en ville, de région en région, d'étape en étape avec les autorités.
Et vous n'avez pas que le Tour de France à gérer, bien sûr, à ce titre du Tour.
Non, puisque le prochain rendez-vous, c'est Paris-Roubaix, vous le savez, hommes et femmes, 6 et 7 avril, et que nous avons déjà organisé, fin janvier, le Al-Oula Tour, une épreuve en Arabie Saoudite, et ensuite le Tour d'Oman. Puis Paris-Nice, bien évidemment. Oui. Il a fallu changer, vous le savez,
oula,
une arrivée d'étape à Oron en raison de la météo, mais là aussi avec l'aide de la ville de Nice et de la préfecture des Alpes-Maritimes, ça s'est passé non pas facilement, mais on va dire sereinement.
Vous n'allez pas me dire que sur Nice, la météo est capricieuse, ça me rappelle que des petits souvenirs, je sais pas, une promenade des Anglais un peu humide.
Ça arrive. Avec le Tour, les courses cyclistes, avec Paris-Nice, ça arrive. Sur Paris-Nice, c'est un grand classique de devoir changer des parcours à cause de la météo, mais c'est rarissime que ce soit sur la Côte d'Azur. En général, quand on arrive le vendredi, on trouve le soleil, la luminosité, la clarté. Cette année, ça n'était pas le cas.
Sauf soleil.
Tout à fait à la fin, sur l'arrivée finale, voilà pour la dernière.
On va se régaler. C'est un drôle le Tour de France parce que, évidemment, tout le monde le sait maintenant avec les Jeux Olympiques, avec la proximité pour des raisons de sécurité notamment. On va se déplacer à Nice pour l'arrivée entre Monaco et Nice. On va partir de Florence, je l'ai dit, pour la première fois. Ça fait longtemps que Florence vous voulait en plus. C'est une vraie histoire d'amour, hein.
Oui, absolument. C'était une candidature pour 2014. Ça correspondait, je crois, au centenaire de la naissance de Gino Bartali. Et en fait, on avait évidemment très envie de partir d'Italie, puisque à cette époque-là, déjà, ça aurait été une première. Et puis, en fait, on a tout simplement regardé les résultats sportifs. Bradley Wiggins, le Britannique, l'Anglais, a gagné Paris-Nice. Puis, il a gagné le Dauphiné. Puis, il a été le premier Britannique à remporter le Tour de France. Et vous vous souvenez, comme moi, de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en Mondiovision, où on a vu trois personnages. La reine d'Angleterre à l'époque, Elisabeth II, James Bond et Bradley Wiggins en jaune, qui a donné un grand coup de gong pour signifier le début des Jeux Olympiques. Et là, nous nous sommes dit, il faut partir d'Angleterre au plus près de la première victoire d'un coureur britannique. Et voilà pourquoi nous sommes partis du Yorkshire, qui a d'ailleurs été un succès populaire absolument phénoménal.
C'est votre meilleur souvenir?
J'aurais souhaité... Le Yorkshire?
Est-ce que c'est votre meilleur souvenir de public et d'ambiance, peut-être, ce départ du Yorkshire?
Ah, le Yorkshire, Londres 2007, le Yorkshire 2014, et puis le Danemark récemment, qui était absolument fou avec un public. Les audiences du Tour de France à la télévision danoise, c'est sur 3 jours 87% de part de marché. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que c'est la France en finale de la Coupe du Monde de foot pour nous, en comparaison de l'audience. Donc c'est quelque chose d'absolument monumental. Tous les Danois étaient au bord de la route ou devant leur télé à un moment ou un autre, puisque nous ne sommes pas allés partout, on pouvait faire les deux, être à un moment devant la télé pour le final de l'étape et être en même temps au bord de la route. Ce sont des souvenirs évidemment magnifiques. Mais donc, pour en revenir à Florence,
oui,
nous avons choisi le Yorkshire finalement pour 2014. J'aurais souhaité que Florence soit candidate l'année suivante, ça n'a pas été le cas. Et puis pendant la pandémie, c'était quelque chose pour moi très fort. C'est au début de la pandémie, d'ailleurs précisément le 18 mars, j'ai regardé au moment de la présentation en octobre quelle date c'était précisément, Dario Nardella, le maire de Florence, qui était à l'époque, 10 ans plus tôt, le premier adjoint, m'a envoyé un message et une petite vidéo. Le message disait « Florence, si belle et déserte ». Et on voyait donc une vidéo de 2-3 minutes dans la ville absolument magnifique et complètement vide. Et il m'a écrit « Je n'ai pas oublié mon rêve du grand départ. Quand la pandémie sera terminée, voyons-nous. » Et voilà comment c'est reparti avec la ville de Florence, avec la région Émilie-Romagne. Florence est en Toscane, je n'apprends rien à personne, mais c'est la ville de Florence, la région Toscane, qui nous permettra d'aller de l'Adriatique chez Pantani jusqu'à la région Piémont. La région Piémont aussi, qui était à l'origine une candidature, il y avait 2 candidatures. Et elles se sont fondues à un moment. Le président de la région Piémont s'est rallié à la candidature Florence et Émilie-Romagne pour aboutir donc à ce grand départ qui viendra samedi 29 juin.
Bien sûr, le plus dur finalement dans l'exercice du Tour de France pour ceux qui ont envie de le recevoir, de l'accueillir, départ arrivé, grand départ, c'est de vous séduire, Christian Prudhomme. C'est pas simple de séduire.
On a la chance d'avoir 300 candidatures pour les étapes. D'avoir aussi un cahier des charges bien rempli pour les grands départs, ce qu'on appelle les grands départs, le départ du Tour de France. Et puis, mais vous savez, comment on fait un parcours du Tour? C'est évidemment un mélange, un équilibre d'étapes de plaine, de montagne, de moyenne montagne, de contre-la-montre. C'est le respect des règles de l'Union cycliste internationale. Et puis, on joue aussi beaucoup avec la géographie. Si vous tracez une ligne droite du Pays Basque à l'Alsace, à l'ouest de cette ligne droite, il n'y a pas de montagne, mais il y a la Bretagne. Je sais, on n'y va pas cette année, mais il y a la Bretagne, il y a la Normandie, mais il y a le Nord, mais il y a la Vendée, donc des régions, des territoires qui adorent le vélo, qui adorent le Tour. Donc bien sûr que nous devons y aller régulièrement. L'aspect sportif, il est déterminant dans le parcours du Tour, mais on regarde évidemment aussi l'aspect esthétique, les prises de vue dominantes, c'est de la culture, c'est de l'histoire, c'est de la géographie, et puis il y a un aspect logistique évident. Je prends par exemple les Pyrénées, nous allons où nous voulons sportivement dans les Pyrénées, mais en revanche, pour repartir, on se place le plus possible sur l'autoroute Pau, Lourdes, Tarbes, Saint-Gaudens, Muret, Toulouse, parce que tout simplement, les seuls hébergements possibles pour la caravane du Tour, en France, qui est pourtant le premier pays touristique au monde, c'est ou Pau ou Toulouse. Autrement, il faut aller en Espagne, dans le Val d'Aran ou en Principauté d'Andorre. Donc ce sont des éléments qui comptent, bien évidemment, puisque si on arrive à Saint-Lary-Soulan, par exemple, et que les coureurs sont hébergés à Pau, ben ensuite, il faut repartir en bus équipe. Ça prend 1h15, 1h30, 1h45. Donc, bien évidemment qu'on n'a pas envie de leur infliger le lendemain à nouveau un long déplacement. Si on repart de Pau, qui est toujours candidate, et merci infiniment à la ville de Pau, ils font 200 mètres, 500 mètres, 2 kilomètres à vélo, ils peuvent arriver beaucoup plus tard et donc se reposer davantage.
Il faut tracer, c'est le plus compliqué, bien sûr. Il y a toujours des Alpes et des Pyrénées, ça change jamais. On va arriver très très vite dans les montagnes cette année, une fois qu'on a passé le Piémont.
Alors oui, d'ailleurs même la première étape sera la plus rude en termes de dénivelé qui ait jamais existé.
Plus que Bilbao,
c'est pas forcément une volonté. Mais ça n'est pas une volonté de notre part, de Thierry Gouvenou, de Pierre-Yves Thou, mon adjoint, de moi-même. C'est simplement que pour aller de Florence jusqu'à Rimini, jusqu'à l'Adriatique, on passe par Saint-Marin, et donc il y a du dénivelé, il y a des côtes, il y a parfois des routes étroites, donc ça va être une vraie première étape où on va voir des favoris du classement général devant, plus encore le lendemain avec un final pour puncher par le mur de San Luca, qui est très très raide et qui sera à franchir 2 fois tout près de l'arrivée. Et puis ensuite, oui, dès le 4e jour, le retour en France, par Sestrières et ensuite en arrivant à Valoire, donc par delà le Galibier, puis on retrouvera ensuite de la plaine des contre-la-montre, les fameux chemins blancs, etc., avant de revenir par le Massif Central et les Pyrénées.
J'ai bien fait de mettre le Galibier aujourd'hui. Non, mais voilà, juste. Et puis après, pour les prises de vue, c'est bien pour Jean-Paul Olivier qui sera avec nous dans un instant pour parler de ce Tour de France pendant 1 heure sur Radio Sport. Après, on va passer par les Alpes. On va pas tout faire, toutes les étapes, parce qu'on aura le temps de se reparler, bien sûr. Juste, on essaie de trouver des petites choses. Quand on a commencé le Tour de France ensemble, on est à peu près de la même génération. Il y avait toujours ce grand en prologue, il y avait des
Je vous le confirme. Je te le confirme, même.
C'est vrai, Christian, on a commencé avec des grands prologues qui duraient une éternité. Moi, mon premier, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'était en 88, mon premier Tour de France. Donc, c'est Delgado qui gagne. Donc, en 89, c'est Delgado qui rate le départ. Donc, c'est des choses, c'est plein d'images comme celle-ci. Et aujourd'hui, on voit qu'on met toujours une première étape très difficile. Mais ce qui nous fait plaisir, c'est retrouver ce fameux contre-la-montre. Personne n'a oublié les 8 petites secondes de Le Monde-Fignon. Ce serait trop beau de retrouver un tel final. C'est presque pensable avec le parcours que vous offrez quand même.
Ah ben ça, on ne peut pas savoir. Le parcours, il est fait pour qu'il y ait du suspense. Maintenant, ça dépendra de ce que font évidemment les coureurs. En revanche, je l'ai dit plusieurs fois dans les interviews, on ne remplace pas Paris comme ça. C'est-à-dire, pour remplacer Paris en 2024, nous savions depuis longtemps qu'on ne pourrait pas arriver à Paris. Les forces de l'ordre, les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, les pompiers seront évidemment largement concentrés sur les Jeux. Et c'est normal, mais ils seront là aussi sur le Tour de France. Mais il fallait sortir de la région parisienne. Donc, pour remplacer Paris, il fallait une ville, des villes qui rayonnent, qui résonnent, qui ont une aura formidable. On parle de Nice, on parle de Monaco, on est en Australie, on est au Japon, on est aux États-Unis, au Canada, on sait de quoi on parle, on sait où on est. Oui. Et puis surtout, et en effet, c'est pour ça qu'il y a le contre-la-montre, ça nous permettait de remettre un volet sportif très important. Les Champs-Élysées, c'est toujours l'une des plus fortes audiences du Tour, notamment à l'étranger, c'est le prestige de Paris, c'est la beauté de Paris. Il y a un sprint final, c'est une procession, le maillot jaune est consacré. Là, ce sera pas du tout ça, puisqu'à 48 heures de l'arrivée finale, les coureurs passeront par le col de la Bonnette, 2802 mètres, c'est la plus haute route de France. Le lendemain, il y aura 4600 mètres de dénivelé pour aller de Nice à la Couillole, et qu'enfin, il y aura ce contre-la-montre de Monaco à Nice, 34 kilomètres, très sélectif, 700 mètres de dénivelé, on part sur la ligne du Grand Prix de Monaco, le plus beau, le plus célèbre Grand Prix de Formule 1 au monde, le tunnel à l'envers, on va monter par Beau-Soleil, enfin vous connaissez ça par cœur,
oui,
bien mieux que moi.
Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, je l'ai repéré.
On remonte jusqu'à la Turbie, on descend, on passe par le Col d'Aise.
J'ai pris un vélo électrique.
Ouais, on
descend. Non, parce que franchement, pour arriver jusqu'à la place Masséna, le plus dur c'est le Col d'Aise, hein, voilà, comme disent les cyclistes, le petit coup de cul là, vers les tennis, c'est quelque chose.
Un kilomètre et demi qui serait très raide.
Oh, incroyable, et puis les images vont être magnifiques du Col d'Aise quand on va dominer de la grande corniche toute la Méditerranée, c'est exceptionnel.
Bien sûr, mais ça fait partie, ça c'est une différence fondamentale entre le Tour de France, les grandes épreuves de cyclisme sur route et tout le reste du sport, c'est que le décor compte bien sûr d'abord l'exploit des champions et des championnes sur la version féminine du Tour que nous avons relancée il y a 2 ans, mais le décor compte énormément et bien évidemment quand on est à Nice sur la Côte d'Azur entre Monaco et Nice, on a le prestige du nom Nice, Monaco, Côte d'Azur, mais on a aussi la beauté des paysages, la mer juste à côté, la montagne juste à côté, et ça va être formidable. Le décor magnifie, sublime l'exploit des champions.
J'ai croisé à peu près 47 coureurs, parce que ce sont 47 résidents monégasques. Ils sont heureux, ils vous remercient, parce qu'ils peuvent repérer quand ils souhaitent, évidemment. C'est vrai qu'ils sont chez eux. Ça reste une exception, ça restera une exception, Nice. On retournera ad vitam aeternam depuis Mourouzi et le président Giscard d'Estaing sur les Champs-Élysées à chaque fois.
Alors, en tout cas, on sera sur les Champs-Élysées en 2025 pour les 50 ans de la première arrivée. Hein. C'était 1975, vous vous souvenez, j'étais, à titre personnel, j'avais 14 ans et j'étais avec ma mère et ma sœur, place de la Concorde, à la sortie du métro de Tuileries, enfin, côté rue de Rivoli, et nous avons vu passer... complètement ébahi, deux coureurs échappés, le maillot arc-en-ciel d'Eddy Merckx et dans sa roue le maillot jaune Bernard Thévenet, puisque jusqu'au bout, le plus grand champion de l'histoire, Eddy Merckx, a contesté la victoire cette année-là à Bernard Thévenet. Donc ce sont des souvenirs formidables, c'est Walter Gottfried le Belge qui avait finalement gagné. Je me souviens d'ailleurs, j'ai un autre souvenir, mais comme j'allais dire un petit gamin lambda, la bouteille d'Orangina était à 5 francs à l'époque et ma mère nous avait dit, bon, vous en buvez un, mais vous n'en buvrez pas deux. Parce que c'était un prix absolument démoniaque pour l'époque. Mais bon, chacun peut en profiter.
Ce qui est formidable avec le Tour de France, avec vous, en plus Christian Prudhomme, c'est que ça génère toujours des souvenirs, nos petites madeleines. Pour pas prendre trop de votre temps et conclure, peut-être il y a plein de points, étapes. On a parlé beaucoup d'Italie, de Monaco, on a parlé un peu des Pyrénées, mais il y a 2-3 étapes. Voilà, il y a un petit côté, j'allais dire nostalgie, républicain aussi, Colombe et les deux églises. Il y a un rapport avec la Strade Bianche, avec ces routes blanches qui vont arriver. Et puis derrière vous, je vois qu'il y a notre poupou national à qui on va encore rendre hommage cette année. Hein.
Oui, bah Raymond Poulidor, c'est lui qui m'a donné l'amour du Tour, hein. C'est très clair. D'ailleurs, vous le voyez derrière moi, mais il est aussi en face. Nous irons à Saint-Lary-Soulan pour les 50 ans de belle étape des Pyrénées, grande étape des Pyrénées. Ces dernières années, quand on monte, pour ceux qui connaissent, quand on monte au-dessus de Saint-Lary-Soulan, il y a une fourche à un moment. Ces dernières années, on est parti à droite vers le col du Portet. Là, on ira à gauche vers le Plat d'Adet, où Raymond avait triomphé en 1974, il y a 50 ans. C'était sa toute première victoire, toute dernière, pardon, victoire d'étape sur le Tour. Il avait distancé le formidable Eddy Merckx, qui allait néanmoins remporter son cinquième Tour de France. Il avait 38 ans. Et il allait finir deuxième du Tour de France, encore troisième du Tour sur le podium deux ans après, en 1976, à 40 ans. Donc oui, il y a toujours ça. Il faut se projeter vers l'avenir, mais il faut ne pas oublier ses racines, j'en suis convaincu. Le fait qu'on aille à Colombey-les-Deux-Églises alors qu'on part d'Italie et que le maillot jaune qui a serré la main du général de Gaulle en 1960, c'est Castonet-Nencini, nous serons sur cette route d'entraînement. Comme on partira devant chez Bartali, juste parmi les nations, hein, Gino Bartali, vainqueur du Tour de France à 10 ans d'intervalle, le seul 38-48 par-delà la guerre, mais qui surtout a caché et protégé des enfants juifs, leur a fourni des papiers pendant la guerre, et il n'a jamais voulu se vanter, dire qu'il l'avait fait, c'est juste à la fin de sa vie où il a dit, oui, c'est vrai, j'ai fait ça, il est juste parmi les nations, on passera, partira de chez lui, Nencini, je le disais, on sortira, on ira chez Pantani, hein, en ombre et lumière, mais Pantani, c'est encore tellement impressionnant en Italie de voir son nom partout dans les montées de col, c'est vraiment très très fort, et puis on sortira par Tortone, où est mort Fausto Coppi. Et les derniers maîtres en Italie seront à Sestrière, où Coppi avait gagné en 1952. C'était la première année où il y avait des arrivées en altitude dans le Tour de France, l'Alpe d'Huez, le Puy de Dôme et Sestrière. Et Coppi avait gagné les trois étapes.
C'est un grand livre d'histoire, finalement. C'est mieux que les cahiers de vacances, le Tour de France. Non, mais c'est incroyable.
Jean-Paul Olivier va vous dire plein d'autres choses. Vous avez dit plein d'autres choses.
Juste un petit bémol, peut-être pour vous, certains suiveurs, de célébrer des champions qui n'ont pas glorifié à 1000% avec ce côté propre ou pas propre qu'on vous, à chaque fois qu'on décrit sur le Tour de France depuis les années 98, notamment. Pantani, c'est quelque chose qui peut choquer les gens de voir que c'est un champion qui est tellement célébré. Parle beaucoup avec Philippe Brunel, par exemple, qui écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle Rouler vite. Comme vous parlez tout à l'heure, évidemment, de coureurs, il y a toujours des très belles histoires à raconter. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous choque? Comment vous le vivez, ça?
Alors, je comprends qu'on fasse une différence avec Coppi ou avec Bartali. En revanche, il est vraiment dans la vie. D'abord, il a existé. Et ensuite, je vous le disais, ce qui me frappe, moi, énormément, c'est qu'en fait, on nous parle partout de Pantani. Les seuls obsèques auxquels j'ai assisté en Italie, c'était justement, c'était à un moment de la mort de Pantani. Je connaissais pas du tout, je savais pas comment ça se passait. Ce cercueil qui sort de l'église, un silence religieux ou un silence de mort, et ensuite tout le monde qui applaudit, puis le silence qui retombe, c'était quelque chose de très fort. C'est pour ça que je vous ai dit entre ombre et lumière, c'est-à-dire que il existe encore aujourd'hui sans aucun doute, avec justement aussi ses incertitudes pour certains sur sa mort, la façon dont il est mort aussi, sa descente aux enfers. Pantani était un génie de la montagne, quoi qu'il en soit, à 14-15 ans, oui. Il utilisait les gamins de son âge, même ceux qui étaient plus âgés. Donc voilà, c'est quelque chose qui a existé. Et il ne s'agit pas de le célébrer, mais on ne va pas faire comme s'il n'avait pas existé et comme s'il n'y avait pas des centaines d'inscriptions de son nom aujourd'hui, en 2024, sur la route.
Je suis en train d'écrire un livre, ça va s'appeler donc Entre ombre et lumière sur le Tour de France, Christophe Prudhomme. Je vais vous piquer la citation. Dernière question, la concurrence, c'est quelque chose qui vous intéresse aujourd'hui, qui vous inquiète ou qui vous conforte, qui vous motive de voir d'autres grands tours comme la Vuelta, le Giro qui va récupérer un Pogacar par exemple cette année, ou Alaphilippe, c'est quelque chose que vous maîtrisez bien, ça ne vous gêne pas, ça vous conforte dans vos idées?
Non, pas du tout. D'abord, la Vuelta, ce sont plus que des amis, puisque la Vuelta appartient aussi au groupe Amaury, et le Tour de France appartient au groupe Amaury. Donc, avec Javier Guillén, le patron de la Vuelta, on se connaît très très bien et on s'apprécie. Et on s'entend aussi avec nos amis du Giro, puisqu'en fait, pour tout vous dire, la société qui organise le Giro, RCS, sert d'intermédiaire d'un point de vue administratif entre les autorités italiennes et nous, pour le départ du Tour de France de Florence. Donc, d'accord. On se parle très régulièrement.
C'est bien.
Il n'y a pas de souci.
c'est mieux ainsi. On l'aime, cette concurrence.
Et je suis par ailleurs le président de l'association des organisateurs. Et dans le comité directeur, il y a et Javier Guillén, le président, le directeur de la Vuelta, et Mauro Vini, le directeur du Tour d'Italie.
Christian Prudhomme, qui nous a fait le plaisir de prendre un peu plus de temps que prévu sous le portrait de Raymond Poulidor, qui me rappelle tellement voilà, les racines paysannes pour certains qui nous suivent sur Radio Sport aujourd'hui. C'était un bonheur de parler avec vous tranquillement du Tour de France à J-100, parce qu'après, ensuite, ça va monter en pression. On l'attend, ce départ, évidemment, de Florence et l'arrivée, et ce grand contre-la-montre final entre Monaco et Nice. Vous connaissez notre tendresse pour cette belle région. Merci mille fois d'avoir répondu favorablement à notre invitation, Christian Prudhomme.
Avec plaisir, Christophe.
À très vite, Christian. Merci à toi.
Tous les sports. C'est sur Radio Sport.
Et les passionnés du sport en général, et surtout du vélo aujourd'hui, se donnent rendez-vous jusqu'à midi. Jean-Paul Olivier, la légende, est avec nous du Tour de France.
Bonjour.
À l'écoute de Christian Prudhomme. Hein.
Oui, enfin, on a commenté, je crois, c'est 3 ou 4 Tours de France.
C'est ça, à peu près. Vous avez arrêté le Tour en 2014. Il y a 10 ans. C'est l'anniversaire avec nous.
Ça en faisait 41.
C'est un bon commentateur, Christian Prudhomme ?
Pardon ?
Il était bon commentateur, Christian Prudhomme ?
Excellent. Excellent commentateur.
Vous voulez revenir sur le tour, vous, ça se sent. Étienne Bonamy.
Bonjour,
Étienne. Ravi de te retrouver, toi, la légende, couronnée encore une fois. C'est quoi, c'est le 12e prix que tu as pour ton livre ? Le deuxième, c'est
deuxième,
ça ?
Le deuxième, le prix Blondin, et ça me touche beaucoup.
Voilà. Magnifique, hein. Franchement.
Merci.
Ce livre, encore une fois, Les Forcés de la route, c'est une obligation dans toutes les écoles. Il a fait le Tour de France, notamment pour Europe 1. Il est toujours dans le monde du sport. Et on est ravis de le retrouver. C'est Axel May. On a fait route ensemble plusieurs fois.
Ouais, bonjour.
Content de te retrouver. Tu as remarqué, en pleine forme, hein, Christian Prudhomme. Hein,
ouais. On sent que les J à 100 jours, là, c'est quasiment J-100 pour lui. Il est au taquet, mais comme souvent.
Et préparer la valise là, pour partir à Florence, évidemment, pour célébrer ce J-100. Il y a le petit compteur qui va bien. On en reparlera pendant les Jeux Olympiques aussi. Salut Jérôme Armand, Radio Cyclo, à la base.
Salut Christophe Paco, bonjour à tous.
Et l'aventure est née avec toi, avec Radio Cyclo.
Bah oui, on a créé Radio Cyclo en 2019, et puis voilà, on a commencé à faire des Tours de France, on s'est croisés tous ensemble, tous réunis autour de cette table, et on va partir là pour un beau Tour de France, la 111e édition.
29 juin, tout ça grâce à Fabrice qui est avec nous. Fabrice Arad qui est de l'autre côté, bien sûr, et qui surveille tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce moment. Tu nous rappelles, on peut nous suivre, comme on le fait en ce moment, par exemple, en direct, hein, sur YouTube ou sur LinkedIn.
YouTube, LinkedIn, Facebook, il y a quoi d'autre? Blue Sky, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout nouveau. Fred, on est partout. Et salut tout le monde.
Écoute, c'est une grande communauté qui ne cesse d'augmenter. Merci pour votre fidélité. C'était intéressant ce que disait Christian Prudhomme, comme souvent d'ailleurs, sur ce Tour de France. Moi, je ne me souvenais pas que c'était la première fois qu'on partait d'Italie. Parce que ça remonte à quand, finalement, le fait de partir de l'étranger, n'en déplaise à certains grincheux?
À 54.
54,
ouais, l'année 54, on est parti d'Amsterdam. Et la première étape était totalement extérieure à la France, si j'ose dire, puisque c'était Amsterdam-Anvers.
Oui,
voilà. Et le lendemain, on était à Lille, envers Lille.
C'est juste une journée, c'était pas un grand départ comme aujourd'hui, 3 journées comme on l'a vu à Copenhague.
Oui, mais enfin, c'était intéressant parce que c'était la première fois, quoi. C'était une première. Donc, il y avait Amsterdam, son folklore. Moi, j'y étais pas, hein. J'avais 10 ans, mais j'ai vu les images. Donc, c'était quand même le folklore hollandais, etc. C'était agréable à regarder.
Étienne Bonamy connaît tout, des petits bistrots sur le port d'Amsterdam,
bien sûr.
Étienne, ce départ en Italie, ça symbolise quand même une. Les carrières, on parlait tout à l'heure des grands noms de Fausto Coppi jusqu'à. Même s'il peut y avoir une petite polémique ou une façon d'appréhender la chose différemment. On en a parlé tout à l'heure avec les Cappucci et surtout avec Pantani. On rend hommage à l'Italie à chaque fois. On était à Bilbao, on part à Copenhague, qui est un pays du vélo avec de vrais champions, de vrais grands champions. Ils le méritent, les Italiens.
Bien sûr, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on découvre avec ce choix qu'on n'était jamais parti d'Italie.
Fou, hein.
Ce qui est assez incroyable, parce qu'on va aussi commémorer cette année le centenaire de la première victoire d'un Italien dans le Tour en 1924, Ottavio. Et j'ai le. Voilà, je ne sais plus comment son nom, mais
Ottavio,
c'était avant.
Bottecchia. Non, mais parce que tu vois, il faut prendre son temps.
C'est pour ça que je me suis assis à côté de Jean-Paul.
Voilà. C'était un souci, tu fais Jean-Paul.
Non, mais
1924.
Il y a eu beaucoup de grands coureurs italiens et de grands champions et de vainqueurs du Tour. Gino Bartali. Est arrivé après, voilà. Donc,
et le fait de célébrer Pantani, c'est quelque chose, toi, qui te... Tu comprends ce que Christian Prudhomme, avec toutes les inscriptions, la façon d'avoir vécu son enterrement, cette passion pour un coureur qui n'est pas exempt, tu vois.
Il
y a un exemple, peut-être, de propreté, en parlant de santé.
Pantani est à une époque du vélo qui n'est peut-être pas terminée, mais qui était une époque très sombre. Je pense que la situation de Marco Pantani, elle est au-delà du dopage dans le Tour. C'était quelqu'un qui était, donc... Un drogué qui est mort malheureusement.
On ne connaît pas toutes les circonstances, mais oui,
voilà, certainement. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais après, moi, pour être passé une fois tout à fait par hasard, et pas pour une course, à Cesenatico, je suis allé voir. Et en effet, partout sur les murs, il y a encore des inscriptions.
C'est comme Diego à Naples, quoi.
Exactement.
C'est ça. Entre ombre et lumière, tu ne me piques pas le titre, hein, parce qu'avec Axel, on va faire un bouquin sur nos souvenirs de l'après-98. T'es trop jeune, t'as pas vécu 98.
Non.
Hein. Non, mais c'était une drôle de période où certaines voitures étaient caillassées, où on a eu du mal à finir les étapes à 20h du côté de Aix-les-Bains ou du lac d'Annecy.
Voilà.
Ouais, Jean-Paul, on s'en souvient.
Voilà, et la grève à Tarascon-sur-Ariège.
Tous les coureurs
ne partaient plus.
Mais vous, qui étiez sur place, vous vous souvenez de ça, alors que le grand public qui se souvient 98, vous lui demandez ce dont il se souvient, c'est le football, il a oublié.
Ça c'est facile, ça, tu te caches derrière ça, toi.
Non, mais sérieusement.
Non, mais tu vois, on ne peut pas le gommer.
On ne peut pas le gommer, mais je pense que le grand public a oublié ça, quoi.
Toi, on va parler de Poulidor, par exemple, sur ce Tour de France, quoi. Toi, tu es comme Christian Prudhomme, tu es toujours collé à l'image, ça reste à Madeleine de Proust, toi aussi, le Tour de France, ou c'est une compétition comme les autres aujourd'hui qui rentre dans les mœurs avec des champions qui sont différents, qui sont plus jeunes?
Bon, moi, je suis pas. C'est vrai, quand on est sur le bord de la route autour de France, souvent, vous avez les personnes qui disent, mais moi, je viens avec mes grands-parents, ou j'étais venu avec mes grands-parents. Il y a cette Madeleine de Proust à laquelle tu faisais référence. Moi, ça n'a pas été le cas, mais c'est toujours une course que j'ai regardée à la télévision. Et effectivement, dans les souvenirs, j'avais, je crois que c'était une casquette d'une marque d'alcool à l'époque.
Pas la mettre à la télé.
Non, non, non. Et c'était dans les années 90. Le tour était passé devant chez nous et on avait récupéré cette.
Alors que tu vois, Jérôme, lui, maintenant, avec sa nouvelle coupe.
J'aurais besoin de la
casquette. C'est le Bob Pochonou. C'est le couleur Vichy, lui.
Mais si, juste pour rebondir sur le fait que ça ne soit pas parti d'Italie, le Tour de France, il se trouve que j'avais eu l'occasion et la chance d'aller en décembre, lorsqu'ils avaient fait l'annonce, en décembre 2022, l'annonce du grand départ. J'avais été sur place avec Christian Prudhomme. Et les Italiens qui étaient là me rappelaient que le Giro est, lui, parti déjà de France. Il était parti de Nice. Alors, c'est presque l'Italie. Mais il était parti de Nice. Et c'était justement en 98, je crois, que le tour d'Italie était parti de France.
De France, de Nice, ouais, tu penses. Ouais. D'accord. On va s'attendre encore à un combat des chefs. On parle beaucoup de la jeunesse des champions aujourd'hui. C'est vrai, quand on voit les Pogacar, les Vingegaard, même Egan Bernal à l'époque quand il gagne le Tour de France. C'est quelque chose qui a vraiment changé dans le vélo.
Alors oui, c'est quelque chose qui a changé. Suivant les sports, dans d'autres sports, il faut un petit peu plus de maturité. Dans le vélo, auparavant, il fallait de la maturité. On ne gagnait pas un Tour de France à 20 ans, 22 ans, etc. Si on regarde tous les derniers, ou les 5 ou 6, en partant de Bernal, Pogacar, Vingegaard, c'est des jeunes. Des jeunes de différents pays. D'ailleurs, on râle parce qu'il n'y a pas de Français. On se dit, est-ce qu'il y a un Français, un jeune Français qui va gagner dans les prochaines années le Tour de France? On n'en sait rien. Mais oui, les jeunes ont pris le pouvoir sur le Tour de France.
Les Français, vous étiez gâtés, vous, à votre époque. Hein,
oui, que nous, hein. Mais c'est aujourd'hui un drame parce qu'il n'y a pas de Français très marquants. Et ça, ça vient aussi au départ donc de l'Europe de l'Est. C'est vrai qu'auparavant, donc, c'était les communistes, c'était les pays communistes. Et ces pays communistes ne pouvaient pas disputer le Tour de France, ne pouvaient pas courir les épreuves professionnelles. Donc, ils couraient, on les voyait, ils venaient au Tour de l'Avenir, ils venaient dans les épreuves amateurs. On se disait, putain, ça, c'est des cadors.
Tour de l'Avenir, oui.
S'ils étaient là, etc. Et puis, il y a eu le rideau de fer qui a été ébranlé. Et puis bon, l'Europe de l'Est a déferlé. Et ça a été peut-être un effet positif pour eux.
Ça, c'est le grand début, parce qu'après, les autres grands pays qui sont arrivés, comme l'Australie, oui, la Colombie, on s'en souvient, les arrivées sur le Tour de France.
Donc, ça a été. Ça a un peu envahi le Tour de France, si j'ose dire. Et nous, on est resté un petit peu à la traîne.
Et les bonnes places des Français de l'époque Thibaut Pinot, il y a eu pas mal de petits podiums, quand même, avec Bardet et autres. C'est vrai, mais on sent qu'aujourd'hui, ça va être compliqué d'aller chercher ce podium, Étienne Bonhomme.
J'ai pas l'impression qu'on ait un Français qui soit leader de son équipe, comme Pogacar peut l'être, comme Vingegaard. Il y a des très bons coureurs.
Même à G2R, qui a toujours eu des Français, maintenant, c'est Ben O'Connor, quoi. Oui,
exactement, on n'a pas de... Je pense que pour gagner le Tour, le leader, il doit avoir une grosse équipe, mais il doit d'abord être un leader. Et je pense pas que Julien Alaphilippe était... Le seul patron de son équipe, etc. Après, c'est des très grands coureurs. Il a fait des performances dans le Tour, comme Thomas Voeckler l'avait fait en 2004.
On a du panache.
Sur les classiques, on va le voir avec toutes les classiques du printemps. Il y a du panache. Après, faire rouler toute son équipe, que le directeur de l'équipe dise, voilà, on roule pour un tel... C'est une vraie puissance. C'est un vrai choix sportif. Et là, je ne pense pas qu'on ait un Français à cette taille-là.
Ni un sprinter, d'ailleurs, vainqueur du Tour de France. Ça va être compliqué.
Non, même si...
c'est tout montagne, quoi, aujourd'hui.
Ah oui, je pensais que tu parlais déjà d'un sprinter qui gagne une étape du Tour de France. Ça arrive pas assez souvent, même pour les Français.
Quoi. Non, mais de moins en moins, c'est ça qui est terrible, hein, aujourd'hui. Parce que c'est vrai, Jean-Paul, avant, il y avait vraiment le contre-la-montre par équipe, il y avait des disciplines, on savait que tout le monde avait sa place dans le Tour de France. Souvent, les sprinters partaient la dernière semaine, hein, comme les Cipollini et Co.
Ça, c'était grave.
Ça, c'était grave.
Mais enfin, bon, c'était ça. Ils venaient gagner leurs étapes de plat et puis ils se retiraient. Mais c'était préjudiciable quand même au Tour de France. Quoi.
Et puis après, il y avait les circuits. Après, ils faisaient les critériums du Tour.
Ça révoltait Félix Lévitant, qui était directeur du Tour avec Jacques Godet. Ça le révoltait littéralement.
Mais on peut comprendre.
Mais on était plus étonnés. On se disait, bon.
Ouais. Mais c'était embêtant aussi. Souvent, quand tu étais téléspectateur, tu avais 4-5 étapes de sprint qui arrivaient. Tu te disais, waouh.
Surtout avec la télévision d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, Jean-Paul, il y a une dizaine d'années, on n'avait pas. Si ça commençait, mais on n'avait pas les étapes en non-stop, comme aujourd'hui.
En intégralité.
On prenait une heure, deux heures avant, quoi. On avait le quoi de...
Oui, oui.
On prenait le meilleur.
Ça commençait quand même déjà.
Non, mais sur la fin, oui.
Ouais, ouais. Sinon, non, bah, on a commencé. C'était une demi-heure, après trois quarts d'heure, puis voilà, on est arrivé.
Et après, il y avait des grandes différences aussi. Il y avait des coureurs qui prenaient 10-15 minutes façon Eddy Merckx sur tout le monde, quoi. Façon Sean Kelly sur un Paris-Nice, quoi.
Oui, oui, mais ça, c'était au temps d'Eddy Merckx.
Oui, oui.
Mais bon, c'était effectivement la période Eddy Merckx. Ça a été une période un peu difficile pour nous parce que Merckx, il dominait les pleins éléments. Là. Il a fait des exploits fantastiques, quoi.
Comme Remco et Evenepoel vont le faire bientôt. C'est un peu ça, Axel ?
Ouais, un peu ça, oui.
Ben, Remco, il est annoncé champion très jeune et il confirme très jeune qu'il est très bon, même si l'année dernière sur le Tour d'Italie, il a le Covid et finalement, il peut pas aller au bout. Là, il va quand même faire le Tour de France, non sans avoir, je crois d'ailleurs, déclaré qu'il aimerait bien qu'il y ait Julien Alaphilippe comme lieutenant.
Copains d'abord.
Oui, ils sont copains, ils s'entendent bien, ça, c'est vrai.
C'est normal.
Mais oui, ben, les Belges, là, c'est vrai qu'eux, ils ont...
Si je parle de Remco, c'est par rapport à ce que vient de dire Jean-Paul sur Eddy Merckx, t'en souviens, Étienne, toi aussi, Jérôme et Fabrice qui nous suit, on se dit que si tu vas avoir un écart de 30 minutes sur une étape, c'est possible avec des garçons comme ça. On l'a vu sur un championnat du monde. Il part comme un Van der Poel, mais toi, il n'a pas 36 de coureurs comme ça. Et Remco, ce sera l'attraction quand même cette année.
Bah, il a, comme le disait Alex, il a manqué l'année dernière le Giro à cause du Covid. Oui. Rappelons-nous qu'il avait eu une grave chute, qu'il a aussi privé. Donc, il a eu déjà deux gros rendez-vous qu'il a dû zapper malgré lui. Peut-être qu'il aurait déjà fait beaucoup mieux que...
Oui, mais enfin, il monte en progression.
Voilà, donc,
ce sont des beaux bébés, hein, quand on remarque tout ça.
Après, je me souviens quand même quand le Colombien...
Egan Bernal.
Merci. S'impose. Ouais. On se dit, bah, là, il était très jeune, il a 21, 22.
Oui, 21.
On se dit, bah, c'est parti, on en a pour 5-6 ans. Et il disparaît. Alors après, il a eu ce grave accident chez lui en Colombie, mais c'était l'année ou deux ans après.
Quand même. Oui, deux ans après.
C'était pas juste après sa victoire.
Non, parce qu'il y a un Pogacar qui arrive, qui bat Roglic dans ce contre-la-montre. Mmh. C'est incroyable où tu as toujours cette image de Roglic pour nous tous avec le casque. Il veut changer de vélo. Il est perdu complet. Il perd cette dernière étape dans le Jura, dans la planche des belles filles, dans le contre-la-montre. Et là, tu te dis, bon, on a trouvé Pogacar. Et puis Pogacar, il trouve encore plus fort.
Et puis il y en a un autre. Voilà, c'est pour ça.
Après, il y a une équipe surtout qu'il trouve.
Alors, il y a une équipe effet. Mais il y a des jeunes. Si ça se trouve, on va avoir jeune arrivé, enfin on les connaît, les jeunes qui sont derrière, qui va arriver, qui va,
cette année, c'est quand même 3,
qui va les trôner. Il y a juste un petit truc qui me pose question, c'est que derrière, est-ce qu'il n'y en a pas des bons? Alors pas ceux qui vont être là pour la victoire,
aujourd'hui.
Non, mais qui vont être là pour la victoire finale.
Ouais.
Il y en a qui vont partir, vous parliez, Jean-Paul parlait des sprinteurs qui partaient la dernière semaine. Moi j'ai l'impression qu'il y en a qui vont partir sur les jeux, qui vont partir la dernière semaine pour préparer les jeux. Voilà. C'est la question que je me pose.
Après, tout le monde ne connaît pas le parcours. Hein. Je disais une interview, pas plus tard qu'hier, je crois que c'était dans le Parisien, de Thomas Voeckler, qui disait il y a la petite butte de Montmartre, on ne l'a pas encore faite pour voir ce que ça donne, parce qu'il faut sélectionner que 4 coureurs. C'est compliqué, ça. 4 coureurs, dont un qui fait en plus le contre-la-montre, Jean-Paul. Hein,
c'est exact. Oui.
Ça va être très difficile pour Thomas Voeckler.
C'est pas facile. Là, des difficultés à attendre les coureurs, là.
Ah bah oui,
les organisateurs,
le choix du cœur.
Et les directeurs sportifs.
Enfin, il y en a un.
Il y a vraiment le monde du vélo est bouleversé, là.
Ou enfin, Christophe Laporte, je pense qu'il sera là.
Oui.
La Philippe, s'il fait pas le Tour de France, je pense qu'il sera là aussi.
Oui,
puisque pour l'instant, il fait que le Giro. Oui, Étienne.
Oui, parce que les JO, depuis que les professionnels y sont, donc depuis que ce n'est plus seulement une affaire du Bloc de l'Est, ça n'a pas non plus couronné des très grands coureurs.
Quoi le dernier?
Carapaz.
Non, mais ça va.
Mais Carapaz, il a fait des bons tours.
T'as raison.
Voilà. Mais... C'est une course. On se demande, et je suis d'accord avec Jérôme, dans quel état d'esprit, par exemple, pour les Français, de courir les JO à Paris sur le circuit francilien. Je me demande si à partir du 10 juillet, ça n'a pas.
Oui, mais non, mais t'as pas 36 coureurs qui seront concernés. T'en as 4 et ta liste, tu la donnes le 5 juillet.
Oui.
Tu vois, je veux dire,
c'est
au début du tour. Hein,
Laporte, il est dans une équipe où ça va rouler. Il va avoir un gros boulot. Voilà, moi, je me pose aussi la question si.
Non, mais Laporte, il est obligé de le faire parce qu'il n'y a pas Wout van Aert.
Évidemment. Mais je me demande
Roglic.
Si c'est pas. Je me rappelle les discussions lorsqu'ils sont allés courir à Tokyo il y a 3 ans et à Rio. C'était tellement loin. Tout le monde disait le décalage horaire, la chaleur, on s'en fiche. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le fait que ça soit à Paris, pour les Européens, il y en a beaucoup,
oui.
Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un focus
sur... Non, mais t'as raison, t'as le relief. Pour revenir sur les favoris, on les connaît, quoi, aujourd'hui, quelque part.
Oui, on les connaît.
L'énigme, c'est quoi? C'est un Roglic, savoir que c'est avec sa nouvelle équipe,
ah oui, est-ce que
quelque chose. Mais autrement, Vingegaard, t'as vu comment il est déjà fort, la première course.
Ils sont tous déjà super en forme.
Pogacar, hein, il se balade. Remco, il est là.
On les connaît, mais il y en a peut-être un qui va sortir. On n'en sait rien. Il faut laisser. Moi, je vois rien du tout.
Ça étape, hein, attention, monsieur Armand.
J'entends bien. Mais ceci dit, est-ce qu'on avait vu arriver les deux autres quand ils sont arrivés, Bernal à l'époque, voilà, on les a pas forcément vus arriver.
Dans une grosse équipe.
Bah, c'était plus ouvert quand même.
Oui, plus ouvert, mais Bernal. Est-ce que en termes de pronostic, on a dit c'est Bernal qui va gagner. En fait, on ne sait pas trop, ça va se jouer entre 2-3, oui, effectivement. Ouais. Mais il n'y a pas un pronostic. On ne peut pas dire c'est lui qui va gagner, comme du temps d'Hino, comme du temps de Merckx, comme du temps de...
Oh, mais Jean-Paul était tranquille, lui préparait ses châteaux, quoi, ses déplacements. Il était... Non, mais de toute façon, c'est lui dit Merckx qui va gagner. Bon, alors, c'est Bernal Hino. Après, il a quand même eu la chance, tu vois, d'avoir eu un Lemon Fignon. On en parlait tout à l'heure, hein. C'est 8 secondes, quoi. Vous en souvenez encore?
Absolument. Je viens de faire une préface pour lui, d'ailleurs, dans un bouquin. Parce que Barthaud.
Vincent Barthaud.
Ils étaient équipiers, bien sûr, chez Renault.
De Marseille.
Et il vient d'écrire, disons, ses mémoires. Et donc, Lemon m'a adressé un message en disant: est-ce que tu peux me faire une préface et tout ça? Alors, je lui fais une préface. Parce que Barthaud s'était distingué dans une étape, l'étape qui partait de Béthune et qui arrivait à Pontoise. Et donc, il avait pris le maillot jaune. Il avait pris le maillot jaune qu'il allait garder jusqu'à l'Alpe d'Huez. Donc, c'est une belle histoire.
Et celui qui a le maillot jaune à l'Alpe d'Huez, généralement, gagne le Tour de France. Vous le savez, Jean-Paul.
Oui, mais il ne l'avait plus.
Celui
qui avait qui prenait le maillot jaune au sommet de l'Alpe d'Huez, c'est celui que vous pensez, Laurent Fignon.
Ah oui,
donc c'est effectivement ça, quoi.
Ah, c'est une autre époque, Laurent Fignon, parce que ça veut dire que c'est un Français qui pouvait gagner et qui a gagné, bien sûr, le Tour de France.
Je t'interromps juste un instant, c'est que t'as quand même des journalistes qui ont fait quasiment toute leur carrière de journaliste sportif et qui n'auront jamais vu un vainqueur français du Tour de France, contrairement à votre génération.
Tu joues pas au tennis non plus.
Non, mais tennis,
pareil. Tennis, Garros, non, mais regarde,
tennis et Tour de France, t'en as, ils ont fait toute leur carrière. Alors, avant, c'était le football. Et puis là, le football, il y en a, ils ont eu deux Coupes du Monde, coup sur coup.
Parce que moi, avec de jeunes journalistes, à chaque fois que je discute, à chaque fois, vous plaignez pas si on se qualifie petitement avec des gens qui jouent tout derrière. Hein. Vous embêtez pas la vie, parce que nous, après 58...
On était contents quand ils étaient en quart de finale.
Non, mais après 58 et ce jeu de maillot, on n'a pas eu des grands matchs de foot. Heureusement, ça a beaucoup changé. On parle livres, un moment, parce que quand je vous écoute et quand je vous vois, je pense à tous les livres que vous avez pu faire. Le dernier, c'est quoi en date? C'est sur les exploits, c'est le théâtre des hommes?
Ah oui, c'est le théâtre des hommes, oui. C'est Tour de France, théâtre des hommes. J'en ai un autre qui sort, là, qui s'appelle Tour de France, reflet du patrimoine, où je fais un petit peu les deux. Je fais un mix de...
Avec une préface de Stéphane Bern,
c'est-à-dire des paysages, et puis du tour, quoi. Il y a beaucoup d'anecdotes, quoi.
Mais vous pouvez le reprendre, tiens. Merci, Fabrice, de nous avoir mis, justement, en exergue, qui n'est pas qu'une maison d'édition, c'est aussi une expression qu'on a dans le langage français, c'est-à-dire de nous avoir montré cette une et cette photo du livre de Jean-Paul. Toi, tu as toujours aimé écrire, toi qui es en activité en ce moment pour essayer d'avoir un nouveau prix. Je sais que tu écris un peu à droite, à gauche encore. Le vélo, ça t'a toujours passionné, quoi.
Alors, je suis un fondu de vélo.
Est-ce qu'on écrit plus facilement sur le vélo?
Et j'ai jamais longtemps écrit sur le vélo. Enfin, à l'équipe, j'ai jamais écrit sur le vélo, sauf pendant les Jeux.
Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de livres sur le vélo, comme sur la boxe, tu vois. C'est des histoires, c'est des gens qui ont tellement donné, tellement souffert, à l'image de Raymond Poulidor, par exemple, quand il faisait tous ses kilomètres.
Ce sont de belles histoires.
C'est ça.
Ce sont des histoires belles et graves, tristes, joyeuses. C'est le triomphe, c'est la déchéance. C'est une vie, en fait. Mmh. C'est une vie, le sport cycliste, comme dans les autres sports, d'ailleurs. Mais le vélo a eu ses champions, comme il a connu un certain nombre de défaillances et de triomphes. Mais il y a tout. Il y a une très, très belle histoire.
Enfin, certaines défaillances, de temps en temps, qui sont consécutives à l'histoire d'alcool pour un coureur américain que j'ai même pas envie de citer. Voilà, il y a des défaillances qui posent question. Je ne vais pas revenir à chaque fois sur le mauvais visage du vélo. Mais voilà, il y a eu des périodes où on est obligé quand même d'enlever les vainqueurs d'un palmarès. C'est quand même...
C'est vrai. L'histoire Armstrong est une histoire très triste. Mais le dopage, c'est pas d'aujourd'hui.
Non, mais on est tous d'accord là-dessus.
Armstrong a profité donc quelque part, si j'ose dire, je vais profiter, entre guillemets, à profiter donc de son cancer, en fait, parce qu'il pouvait suivre un traitement. Et puis bon...
ça donne espoir aux gens aussi, c'est ça.
Parallèlement, sur le côté positif. Il a un peu dévié, etc. Bon, c'est ça, c'est la vie. Mais sinon, le dopage existe depuis très longtemps.
Ouais, à votre connaissance, le premier cas un peu...
Bah, le premier cas un peu...
Sur fond d'anecdote, hein, je veux dire.
moi, je le situerais en 1960. C'était à Rome. Et c'était les Jeux Olympiques contre la montre. Donc, l'épreuve contre la montre, qui avait de 100 km à peu près. Et il y a un coureur danois qui est tombé et qui ne s'est jamais relevé. Il s'appelait Knut Jansen et Neymark. C'était le premier mort. Et alors, donc, bien entendu, on sait ce qu'il a absorbé, etc.
On savait.
Oui, oui. On a su après, on a fait des analyses. Quoi.
C'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette nouvelle génération avec Axel. Avant de retrouver notre nouveau consultant dans quelques instants de Vélo Wire, Thomas Verghoeven, pour revenir sur le parcours de Tour de France. Mais j'aimerais bien qu'on termine justement par cette façon qu'on a, nous, peut-être les plus anciens, de raconter notre vélo de l'époque, comme le faisait si bien tout à l'heure Christian Prudhomme, quand il évoquait sa maman, sa petite bouteille à acheter à 5 francs. Toi, le vélo d'aujourd'hui, c'est un sport comme le foot aujourd'hui, c'est un peu plus moderne, c'est de la technologie, c'est les nouveaux masques d'une équipe comme la Jumbo, par exemple.
Ça s'est beaucoup professionnalisé et on le voit même dans le rapport qu'on a avec les coureurs. Alors le Covid très récemment n'a pas aidé, où aujourd'hui accéder au pullman, enfin au bus devient plus compliqué. Maintenant, tu vas jamais, sauf si t'es le diffuseur, tu vas jamais rentrer dans le bus.
Mais ça c'est pas propre. Tu vois, c'est pas propre au cyclisme.
Non, mais ça.
Moi, à l'époque, par exemple, pour voyager avec des joueurs de foot, on le faisait. Aujourd'hui.
Ben là, c'est ça. Ce que.
Ça fait longtemps que je me suis pas assis à côté de Kylian Mbappé.
Évolue. C'est la même chose. On pourrait parler du rugby, c'est un peu pareil. Et puis aussi le fait qu'ils mettent leurs lunettes de soleil dès qu'ils sortent du bus.
Tu ne fais pas toi non plus pour éviter trop de fans autour de toi, j'ai vu la dernière fois. Jean-Paul le fait, c'est pour ça.
Mais tu vois, à peine ils sortent, alors qu'ils vont au podium signature avant la course, ils mettent leurs lunettes, ils ont pas le casque, mais ils ont les lunettes, ils sont quand même...
Oui, puis il y a un protocole dans leur départ, bulle. Maintenant, il y a une interview dès le départ, avant ça ne se fait pas.
Mais ça reste quand même globalement, à l'arrivée, tu as les gens qui, surtout sur les courses, le Tour de France est particulier parce que c'est une telle machine médiatique, mais si tu vas sur Paris-Nice, là, qui vient d'avoir lieu, tu peux quand même approcher assez bien les coureurs.
Et encore, il y a un côté très professionnel quand même. Hein.
Oui,
alors, habiter dans le sud, comme disait Christian Prudhomme tout à l'heure, et croiser tous les champions qui habitent dans le sud. Ce Tour de France sera beau. On va vous y revoir sur le bord de la route, je suis sûr, Jean-Paul Olivier. Il y a une étape que vous avez cochée.
Oui, j'ai coché... j'ai coché Colombelles et Deux Églises, bien sûr, puisque j'ai écrit des ouvrages sur De Gaulle. Et j'y vais après-demain. Je vais après-demain à Colombelles.
D'accord.
Vous allez me dire déjà.
Déjà,
parce que dans toutes les villes étapes du Tour, chaque année, ville départ ou ville arrivée, il y a une dictée qui est faite pour les enfants des écoles. Alors moi, ça doit être la 7e fois que je le fais, parce que Christian Prudhomme me dit « Bon, bah, tu choisis ton étape. » Donc je choisis mon étape. Et puis bien sûr, cette année, j'étais obligé de choisir Colombelles, quoi.
Avec les tirés entre Colombelles, les deux églises.
Oui, absolument. Et des majuscules à deux.
Important.
Deux églises.
Et vous y retournerez pendant le Tour de France ?
J'ai
arrêté avec le maillot jaune, on disait tout à l'heure.
Ouais, je retourne en Tour de France. Mais avant même le Tour de France, il y a Paris-3. Paris-3 qui part de Colombelles.
D'accord.
Et c'est plus de Paris, bien sûr. Maintenant, on ne part plus de Paris. Ben, Paris-Roubaix ne part pas de Paris. Donc, il part de Colombelles et il fait un grand circuit et il arrive à Troyes. Donc.
À Troyes, il y aura ces petits chemins. Hein, ça vous plaît, ça ? Je suis sûr, tiens. Tu adores la Strade Bianche, bien sûr.
Ben oui, ça va être une superbe étape. On va se régaler.
Les chemins blancs, c'est beau, ça. Hein,
les chemins de vigne.
C'est Antoine Blondin qui disait, après l'arrêt du général de Gaulle, et les coureurs ont repris leur chemin de Troyes.
Oh, c'est joli.
Mais il avait dit mieux lorsque le Tour de France est passé par Colombelles en 1960, que Jacques Godet donc a fait arrêter le peloton, qu'il a mis devant le peloton les cinq hommes en vue, c'est-à-dire le maillot jaune Gaston Elenchini, le maillot vert Jean Craxic, André Darrigade, champion du monde, Henri Anglade, qui était capitaine de l'équipe de France, ancien champion de France, et Antonin Roland, le plus ancien déjà des coureurs. Et il aura 100 ans au mois de septembre.
Magnifique. Bon, quel âge? Allez-y, Jean-Paul.
Et alors, Antoine Blondin a fait un papier dont le titre, est, pour l'équipe, il faisait un papier tous les jours. Et le titre, c'était « L'affaire est dans le sacre ». Et à la fin de son papier, il fait « Je suis enfin d'accord avec un président de la République qui ne laisse rien passer, même pas le Tour de France
». Jean-Paul Olivier, merci d'avoir pris du temps pour nous, Jean-Paul, en tout cas. Non, vous revenez quand vous voulez sur Radio Sport, parce que non, c'est tellement merveilleux.
Vous m'appelez, je viens.
C'est vrai ?
Absolument.
Tu as son 06, hein, Fabrice, hein, t'oublies pas.
Merci, oui, Fabrice. J'ai noté,
Étienne Bonhomme, merci à toi. Bonne continuation. J'ai pas entendu ton favori, toi, qui est complètement dans l'action, encore plus.
Moi, j'aurais tendance à dire un Danois, dont on a appris à prononcer le nom. Jonas,
ça dépend, si tu le fais à la
Danois. Jonas Vingegaard.
D'accord. Non, on va se régaler avec toute l'équipe, notamment Thomas Verhoeven, qui va nous rejoindre dans cette aventure. Vous allez le découvrir dans un instant, puisqu'on va revenir avec lui sur la carte du Tour de France, qui est magnifique, qui ne fait pas complètement le tour, bien sûr. Il n'y a pas le Nord, il n'y a pas la Bretagne de Jean-Paul Olivier. Mais il y a ton Sud, en tout cas, Jérôme.
Ah, il y a le Sud, on va se régaler. Il y aura du soleil, au moins.
Il y aura du soleil.
Et beaucoup de monde, hein, sur les routes, comme d'habitude. C'est une des plus grandes compétitions gratuites avec des gens qui peuvent regarder.
Tu fais que la caravane, c'est ça, j'ai pas compris.
Moi, je fais
que la caravane.
Tout.
On va se régaler. Toute l'équipe de Radio Sport, Fabrice, hein, tu nous le confirmes, sera sur place à Florence dès le 29 juin.
Exactement. Vous serez même un petit peu d'avance pour faire la présentation des équipes.
La présentation des équipes. D'entrée, c'est bien. On va être bien, Florence. Hein. C'est une belle terre. Pour la première fois, le Tour de France donc, va s'élancer d'Italie pour arriver.
C'est la ville de Bartali, déjà, la ville de naissance de Bartali, d'une part. Et on célébrera aussi la victoire de Gastone Nencini en 1960. Il y a une statue qui se prépare pour lui au départ de la ville.
C'était un an avant ma naissance. C'est pas beau, ça. T'as vu la conclusion?
Ah, la Gastone Nencini. Elle est belle.
Jean-Paul Olivier, Étienne Bonhomme, Axel May. Avec Jérôme Armand et Fabrice qui est avec vous. On vous remercie pour l'instant d'avoir suivi dans cette première partie. On termine avec, on va vous faire tout le détail du Tour de France avec Thomas qui va s'installer à votre place dans quelques instants ici sur Radio Sport. Non. Allez. J-100 de cette dernière partie de cette spéciale Tour de France sur Radio Sport. Oui, on va revenir justement sur le parcours. On en parlait avec Christian Prudhomme en tout début d'émission. On est avec Thomas Verhoeven qui va nous suivre pendant tout le Tour de France. Ça, c'est la très bonne nouvelle avec Fabrice. On est content, Fabrice, de recevoir Thomas.
Tout à fait.
Tu vas être avec nous comme consultant parce que tu connais tout par cœur. Tu as notamment un site que tous les grands spécialistes de vélo connaissent qui s'appelle VéloWire. On peut dire .com aussi, c'est bien.
.com, tout à fait, oui.
Comme ça ne sert plus à rien aujourd'hui.
Il vaut quand même mieux le taper si on veut y aller. Après, un moteur de recherche, il t'y amène. Mais
c'est
VéloWire.
Tu regardais le tour comme nous, tu as entendu parler avec Jean-Paul Olivier tout à l'heure et Christian Prudhomme de ce qui nous attend, de la montagne, à deux contre-la-montre, parce qu'on va considérer quand même la dernière étape comme un contre-la-montre avec Nice. Tu penses qu'on y arrivera jusqu'au bout avec ce suspense, comme avec Clément et Fignon, ces 8 secondes?
C'est toujours difficile à dire. Effectivement, avec Fignon, c'était sympa parce que suspense jusqu'au bout. Sauf pour lui, non, mais je veux dire, c'était sympa pour le côté sportif le côté suspense, effectivement. Maintenant, enfin, le Tour de France est imprévisible. Donc, on peut toujours dire oui, on fait ça pour justement avoir la surprise à la fin. Maintenant, la surprise, elle peut arriver avant et elle peut tout changer. Le contre-la-montre peut aussi décider la fin.
On va revenir sur le parcours, ça va démarrer très très fort. On n'oublie pas, on a vu à Bilbao l'an dernier, ça montait déjà. La première étape, déjà avec Florence, c'est le théâtre des rêves, hein, un petit peu. C'est pas Manchester United, ça c'est le surnom, mais on peut dire ça de Florence quand même.
C'est quand même très beau et ça.
Et ça va monter.
C'est ça, ça va monter là et après, enfin, ça va monter très vite aussi très haut quand on sort de l'Italie et qu'on arrive en France, par exemple. Hein, ça c'est enfin.
Par le parcours, par notre géographie, on est obligé de passer par des sommets quand même déjà.
Hein. C'est ça, enfin un peu quand on traverse la frontière, c'est souvent en haut d'un sommet qu'il y a la frontière, et ben là c'est un peu le cas, donc il faut y aller, il faut monter jusqu'en haut, et c'est ça qui a d'ailleurs donné lieu à la phrase qui type un peu ce Tour de France, qui est jamais le Tour de France n'a été aussi haut, aussi tôt.
Ouais, aussi. Quoique, moi j'ai l'impression que de plus en plus on nous l'a fait cette phrase chaque année.
C'est pas faux. Effectivement, quand on prend le départ à Bilbao, on était effectivement dans de la montagne très vite. En revanche, c'était l'altitude qui n'était pas à ce point.
Oui,
et donc, effectivement, le aussi haut, il explique effectivement.
Quand on va aller vers Valoire et compagnie, ça va monter.
C'est ça.
Ça veut dire que déjà, avec les Alpes, on aura une première hiérarchie.
Oui, quelque part, je pense que très vite, après 4-5 étapes. On voit bien les favoris qui vont se positionner, parce que s'ils se positionnent pas là, en fait, ils peuvent pas forcément gagner le tour de cette façon, mais ils peuvent surtout le perdre.
Parce qu'avant, c'était toujours des étapes très piégeuses, c'était des petits vents, que tu vois, que ce soit vers la Méditerranée ou la façade atlantique, quand t'es parti dans le nord près de chez toi, hein, où il y a ces vents là, vu ton accent et ton nom, on n'était pas complètement de chez nous.
Non, pas
même
tout
si
à fait.
On t'a bien adopté maintenant.
Heureusement, oui, parce qu'effectivement, la France est un peu mon pays d'adoption, mais effectivement, je viens des Pays-Bas et je me souviens.
Tu connais le vent, t'en souviens.
Voilà, effectivement, l'arrivée qu'on avait, alors ça s'appelait Zélande, sauf que Zélande, c'est le nom de la province, mais c'était effectivement sur un pont totalement exposé au vent. Oui,
On n'aura pas ça cette année, visiblement.
Là, non, au départ, ça sera plus calme de ce point de vue-là, en tout cas.
Alors, donc, c'est vrai qu'on a les Alpes. Ensuite, on va repartir vers des endroits qu'on connaît à peu près par cœur. Il y a pas mal de petites surprises. On en a parlé tout à l'heure avec ces petits chemins blancs qui nous rappellent Strade Bianche. Il y a des petites surprises, quoi.
Et il n'y a pas que ça sur cette étape. Elle est autrement surprenante. Trois, effectivement, et pas trois fois, mais trois deux fois.
Facile.
Bah oui, désolé. mais trois deux fois parce que c'est aussi
trois, deux bien. Fois, c'est pas le même pays. Hein.
Bah ouais, mais c'est aussi bien le départ que l'arrivée de cette étape. Et ça, quelque part, quand on regarde sur l'histoire du Tour de France, c'est quand même exceptionnel d'avoir une arrivée et un départ au même endroit.
Ça, c'est bien. C'est pratique pour les suiveurs aussi.
Tout à fait, parce qu'on va rester sur place, sauf que derrière, ils nous ont calé un petit transfert vers Orléans, donc...
Trois fois rien. Non mais, alors c'est deux tiers de la France, hein, on le rappelle, parce que Nord, Bretagne, Normandie, on n'y passe pas, quoi.
Cette année, non. En revanche, sur VeloWire.com, justement, juste avant l'annonce
du parcours de l'année prochaine, il y aura...
Bien évidemment, je donne toujours le parcours de l'année prochaine en avant-première. Je sais que tu n'aimes pas, mais tu n'es pas obligé de regarder.
Non, mais je suis un nostalgique. Toi, tu es jeune, ça va, tu peux y aller.
C'est vrai. Et
regarde, j'écoute pas.
Ouais, mais...
Tu connais les singes?
il y en a trois. En fait, la particularité de ce que je donne, moi, en avant-première, ce sont bien les étapes, c'est-à-dire départ, arrivée. Moi,
tu sais d'où on part déjà, le Tour de France?
Oui, alors ça, c'est officiellement annoncé, quand même, mais...
Vas-y, rappelle-le. Parce que tu le sais plus.
Oui, bah, du coup, j'ai un trou, effectivement. Mais on part de Lille, parce que comme ça, c'est quand même...
Non, mais c'est bien, tu sais. Bien ton
pied, ça remonte quand même assez vite. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, je donne les lieux de départ, lieux d'arrivée, tous les ans, donc en avant-première de l'annonce.
C'est ta spécialité.
Ouais. C'est un peu une de mes spécialités sur mon site. Mais je dis toujours, c'est un peu comme les gamins à Noël. Ils vont toujours toucher le paquet sous le sapin de Noël pour un peu sentir la forme et deviner ce qu'il y a dedans.
Le jour, mon père m'a offert une batterie, tu vois. J'ai compris que c'était une batterie.
Ouais, ça se voit bien. Hein, voilà.
Une guitare, tu vois, un piano.
Et sauf que ce que tu ne savais pas, c'était quelle couleur était la guitare.
Ouais.
Et c'est un peu la même chose.
Non, mais tu comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on découvre à l'avance.
Oui, mais c'est pour ça qu'ils ne sont pas obligés d'y aller.
Mais en gros, on sait que l'an prochain, on est presque obligé par rapport aux dernières années de partir de Lille et d'aller vers la Bretagne. Ça serait...
En passant par la Normandie, éventuellement. Ouais. C'est assez évident. Et en même temps, c'est évident parce que c'est sur le chemin, entre guillemets. D'ailleurs, il y a aussi de fortes chances que derrière, on descende encore plus vers le sud. Le sud de la France.
Non, mais le sud à gauche ou le sud à droite?
Non, plutôt ouest. Plutôt ouest,
ouais.
Droit.
Arcachon pour se baigner.
Oui, on pourrait faire ça. Ça pourrait être sympa. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, la Normandie, la Bretagne, c'est évident. Alors déjà, parce que c'est logique sur le chemin, mais comme tu le dis, quelque part aussi, quand on regarde un peu l'historique, c'est aussi logique qu'on y retourne.
Bah oui.
Et c'était un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que juste avant la présentation du Tour de France qu'on a ici, donc le Tour de France 2024, j'ai publié un article parce que souvent, quand il y a le parcours du Tour de France qui est annoncé, il y a la réaction de c'est pas un Tour de France, il passe pas partout
en
France.
Et surtout un Tour de France qui part pas de France.
Voilà, mais donc ça n'est pas vrai. Alors sur le Tour de France qui part pas de France, on peut en parler
en détail, parce que
c'est un vrai sujet et c'est intéressant. Mais sur le fait qu'il ne couvre pas toute la France, j'ai donc fait un article qui reprend en fait en gros les parcours de 16 Tours de France, je crois, des 16 derniers, et qui montre que, à part quelques taches blanches qui sont par exemple du côté d'Orléans, mais qu'on va couvrir avec le Tour de France 2024, en fait, en gros, la France est quand même très couverte. couverte. Donc quand en gros, on visite quand même globalement la France.
Quand tu colles 3-4 cartes de France, on passe partout.
16.
Non, au total.
Une quinzième Tour de France. On a fait à peu près toute la France. D'accord. Il y a quelques petits trous, mais globalement, en fait, quand même, ça couvre. Mais
après, on revient toujours vers des endroits mythiques. Là, on va revenir 50 ans après Polydor, tu vois, Pla d'Adet. Il y a des endroits comme ça où tu reviens. On va passer à Colombey-les-Deux-Églises, mais c'était 1960 avec le général de Gaulle. Bon, c'était pas vraiment. C'est le général qui avait arrêté la course.
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'officiellement, il n'y avait pas d'arrêt de prévu là-bas. Effectivement, il y a eu un arrêt surprise, mais c'est la première fois qu'il y a une arrivée là-bas. Donc effectivement, alors on va aller à des endroits, on va dire historiques pour le Tour de France, que ce soit parce que c'est des cols et il faut bien passer par là parce que
t'as pas d'autre chemin non plus.
C'est ce que j'allais dire, c'est un peu le propre du Tour de France. Il faut que la montagne fasse bien partie du Tour. En revanche, c'est malgré tout, il y a des petites surprises toujours dans le.
Vas-y,
dans
parce
le
Tour qu'on on a déjà beaucoup parlé du Tour depuis une petite heure, depuis ce grand direct. Quels sont pour toi les endroits où il va falloir vraiment se positionner où ça va se jouer? Ça peut jouer encore une fois jusqu'à la dernière étape, mais même peut-être l'avant-dernière. Tu vois,
ouais, alors,
pendant 3 jours autour de Nice, quoi.
Bah, c'est ce que j'allais dire. Quand on va se rapprocher de Nice,
avec moi.
Bah, souvent. Mais, après, on verra si on sera en désaccord. Mais ça peut arriver sur le Tour de France. Jamais. On ne sait jamais. Mais effectivement, quand on va se rapprocher de Nice, la course va se durcir un petit peu à nouveau. Ça va devenir à nouveau un peu plus corsé. Ce qui fait que les favoris vont à nouveau devoir être là. Et comme je disais, en fait, le Tour, il peut se perdre au dernier moment. Il peut aussi rester dans la configuration qu'il a connue. Dans l'approche, c'est-à-dire plutôt en amont, en partant des Pyrénées. C'est ça la surprise qu'on va avoir sur le Tour de France.
Ça peut jouer tellement partout, parce que tu as parlé des Alpes, des Pyrénées, on va retrouver le plateau de Baye. On se souvient de Thomas Voeckler.
Ah oui.
Hein, au maillot jaune.
Tout bon, à fait. Ah bah, je ne suis pas français, mais effectivement, c'est quand même beau.
Ah, tu vois, tu le reconnais que tu n'es pas français. attends. Français d'adoption. Ah ben non, moi, je ne suis pas français. Choisis ton camp. Parce que
je dis souvent que je suis français.
Pendant 3 semaines, pendant le Tour de France, avec Jérôme Armand, parce que nous, on va s'arrêter à Gevrey-Chambertin, si tu es français, tu sais ce que c'est.
Ouais.
Hein non, mais c'est vrai. Mais
je ne bois pas de vin, moi. Donc.
Avec modération.
Pas.
Donc c'est bien, t'es adopté alors.
Ouais,
on a quand même toujours des noms qui nous rappellent tellement de souvenirs. On va passer par des très très belles villes. Mais c'est vrai que ce Tour de France, il est très bizarre parce que c'est une année où, en plus, il y a Pogacar qui va doubler Giro, donc on ne sait pas comment il va être les Tours de France. On a l'impression que la Jumbo que tu connais par cœur, que tu as pu suivre.
La quoi?
J'ai pas compris.
En ce moment, il y a un petit jeu qui s'appelle The Name Game.
Vas-y.
Qui est organisé par l'équipe. Qui s'appelle désormais Visma Lease a Bike. Qui est donc le nouveau nom de Jumbo-Visma.
Oui, bien sûr.
Voilà, bien évidemment. Et justement, leur principe, c'est un peu de dire, on challenge les chaînes télé et les podcasts.
Ah, mais pas.
Pour prononcer correctement le nom de notre équipe.
Bah, c'est Jumbo,
celui
déjà.
Celui qui arrive le plus. Alors ça, tu l'as bien retenu, ça c'est parfait.
Ou alors on dit les abeilles, c'était
pas,
jaune.
C'était pas Jumbo. Alors les abeilles, effectivement. Ouais. Alors ça, c'est le deuxième nom qu'ils se sont donné d'ailleurs.
D'accord.
Parce que, en fait, historiquement, l'équipe, enfin la structure juridique, parce que alors ça, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais derrière une équipe cycliste qui porte un nom commercial, un nom d'un sponsor ou de plusieurs sponsors, il y a toujours une structure juridique qui est une entreprise. Si on prend par exemple en France AG2R, donc Decathlon, AG2R Mondial, la Mondial Team, en réalité c'est France Cyclisme. En fait, de la même façon, aux Pays-Bas, sur Visma Lease a Bike, il y a une structure derrière qui s'appelait, en fait, historiquement Blanco Pro Cycling Team, qui doit nous rappeler quelques souvenirs de la période où ils sortaient de Rabobank. Et où ils ont fait une année sans sponsor.
Ouais.
Voilà, ils ont fait une année sans sponsor sous le maillot Blanco. Et en fait, l'équipe.
Maillot blanc.
Ouais, alors il était blanc, bleu, noir, enfin un peu de tout. Mais il y avait clairement écrit Blanco dessus parce qu'ils n'avaient pas de sponsor à ce moment-là. Et en fait, la structure juridique s'appelait toujours comme ça. Maintenant, avec le temps qui change,
ils ne s'appellent pas les Rasmussen, tu
vois. Pas les appeler. Non, quand même pas.
Non, quand même
ça,
pas.
C'était des mauvais souvenirs.
C'est la mauvaise période Rabobank, c'est pour ça que
c'est exactement ça. Donc, ça, justement, c'était aussi un peu ça. C'était l'autre explication de Blanco. Ils ont un peu voulu faire.
Oublié, mais c'est normal. De l'historique
qui n'était pas terrible, donc c'était page blanche. Voilà. Et donc maintenant, la structure juridique a été renommée en Yellow Bee, c'est-à-dire les abeilles jaunes, parce que c'est un peu comme ça qu'on les appelle, parce qu'on les reconnaît comme ça sur la route. Et pour la première fois dans l'histoire de l'équipe, ils le mettent réellement en avant, c'est-à-dire que c'est pas sur le devant du maillot, il y a bien écrit Visma Lease a Bike, mais à l'arrière du maillot, de la casquette, etc., il y a toujours écrit Yellow Bee. Donc désormais, ils assument aussi le nom de la structure juridique et comme bah, oui, un peu le surnom qu'ils ont eu naturellement.
Avec la série Netflix, il y a tous ces surnoms qui sont arrivés, comme c'est pour Philippe Sen qui a gagné le Milan-San Remo.
Ouais.
Tu vois, maintenant, avant c'était The Disaster, maintenant c'est The Winner, quoi, quelque part. Non, mais tu vois.
Oui, mais un peu Disaster de moment, moment quand même, mais effectivement, il gagne.
Entre la première saison et la deuxième saison, on verra bien la différence.
Ça a bien changé, oui, c'est sûr.
Ça va être intéressant en tout cas.
Ah, mais dans tous les cas, le tour est toujours intéressant, mais je pense que là, on n'a pas parlé de quelqu'un en plus qui arrive.
Tu veux me parler d'un garçon qui s'appelait Rem quelque chose ?
Ouais, qui vient de la Belgique peut-être ?
Ouais, bon, c'est son premier tour. Hein.
C'est son premier tour. Alors, effectivement, moi, je ne m'attends pas du tout à ce qu'il gagne le Tour de France. D'ailleurs, quand on a vu Paris-Nice.
Il est là, il gagne deux maillots quand même à la fin, tu vois.
Oui, effectivement. Non, alors, il gagne pas de maillot, il gagne une étape.
Non, mais après, il gagne de maillot, il termine avec le maillot de meilleur grimpeur, tu vois ce que je veux dire.
Tout à fait. Oui.
Attention, hein.
Mais ça peut arriver.
On commence pas à buter un autre chiffre. Hein.
Tout à fait. Mais effectivement, en fait, en gros, quand on regarde, en gros, son Paris-Nice, je vais pas dire qu'il était mauvais, parce que sinon, il aurait pas été à ce niveau-là, il aurait pas gagné l'étape. Mais effectivement, enfin, il était, alors, il y a certains qui disaient qu'il était pas au rendez-vous. Toi, tu dis, c'est le début de saison, et c'est tout à fait explicable,
Tu veux me dire que de l'autre côté, dans l'autre course, Vingegaard, ou Vingegaard, comme tu l'appelles.
Non, tu le dis très
lui,
bien.
Lui, claque, quoi.
Mais
je comprends.
Oui, enfin, je veux dire, après, c'est les choix que l'on fait, entre guillemets, sur une saison. C'est, de toute façon, en fait, en gros, on performe, sur une période. On peut jamais performer
depuis longtemps. Thomas, on connaît les rendez-vous maintenant. Il y a un petit peu de Paris-Nice ou de Tirreno d'un côté. Il y a un petit Milan-San Remo qui se passe là. Ça se termine au sprint.
Ouais.
Il y a même Pogacar quand même sur le podium, toujours. Derrière, tu sais que le prochain grand rendez-vous, ça va être quoi, le Dauphiné ?
Bah, à part.
Non, mais vraiment, tu vois, où tu
auras les mecs. Avant, il y a les classiques belges, mais ça vise pas les mêmes coureurs.
C'est pas les mêmes coureurs.
Les mêmes coureurs, effectivement.
Non, mais la seule fois, en course à étapes, c'est ça.
Après, effectivement, en grande course par étapes, c'est le Dauphiné.
Dauphiné, tu sais ce que c'est.
Et le Dauphiné, comme c'est en plus la veille, entre guillemets, du Tour de France, bah, forcément, c'est là où il faut être en forme, et c'est là où tu vois vraiment les favoris.
Si t'es loin, ça va être compliqué pendant 3 semaines, c'est ça.
C'est sûr que si tu es loin sur le Dauphiné, il est fort peu probable que tu performes sur le Tour de France.
Fabrice, t'as vu l'heure ?
Il est bavard.
Un spécial. Non, mais il est bien, hein, Thomas, mais il est bavard. Mais en plus, tu te fais les raisons juridiques de toutes les équipes. On n'est pas bien.
Hein. Il y en a combien, d'ailleurs, des équipes ?
Dans le tour ? Dans le monde ou sur le Tour de France ?
Sur le Tour ?
De 22 ?
Toujours.
Bah oui.
Bon, c'est bon, vous pouvez partir.
22 fois 8 coureurs. Hein.
Seulement 8.
Ouais.
Moi, je trouve ça dur quand même par moment.
Ça enlève. Alors.
Moi, je trouve. Hein. Après, c'est plus dangereux, je sais.
Le cyclisme, c'est un sport d'équipe, et ça, forcément, enfin, ceux qui suivent le cyclisme, ils le savent. Et effectivement, sur 8, tu perds vite quelques éléments, et du coup, t'as plus grand monde. Donc, ça peut aller très vite.
Historiquement, c'est qu'il y a eu trop d'accidents aussi. Il y a une trop forte densité, surtout sur les premières étapes où ça frotte, comme on dit.
Ah oui, puisque tout le monde est nerveux.
J'adore moi le vocabulaire du vélo. Tu vois, avoir trouvé tout ça. Non, c'est bien, moi. Ça frotte, on suce la roue, ça va être. Voilà, c'est comme ça, c'est le vélo. On fera peut-être une petite question tous les soirs sur le Tour de France.
Oui, le quiz du tour.
Ah, moi, j'aime bien
les expressions. Tu sais, les expressions.
Même toi, tu peux pas jouer, t'es néerlandais.
Ah non, je jouerai pas parce que. Alors, néerlandais et français d'adoption.
Si tu te dis la soquette légère, ça va, tu
sais. Ah oui, je vois ce que c'est. Ouais, c'est mais après, moi, je vais pas jouer parce que on va laisser les auditeurs jouer quand même.
Et puis, Jérôme Armand, c'est la Bible, quoi.
Ouais.
C'est Jean-Paul Olivier à côté.
C'est rien. parce que l'église n'est pas au milieu du village.
Ouais, c'est comme des souvenirs pour nous.
Ah, quand même.
Jean-Paul Olivier.
On l'a beaucoup entendu à la télé, quand même.
Thomas Verghoen.
Ah, Verghoen, mais bon, c'est pas grave. Je tiens à Ouest de Thomas.
Moi, c'est Thomas et lui, c'est Fab.
Voilà.
Derrière.
Et toi, c'est Pâques aussi.
Merci, Paco, voilà, c'est Pâques. Tu fais comme tu veux. Ça sera un super Tour de France. On se retrouve tous les mois, évidemment, sur Radio Sport pour monter en puissance. Et on vous remercie d'avoir été avec nous en direct aujourd'hui sur Radio Sport pour préparer ce Tour de France. Et encore merci à Christian Prudhomme et ses équipes d'avoir été avec nous au tout début d'émission pour lancer avec ce J-100 la grande saison vélo après le Paris-Nice, après le Milan-San Remo. Merci de nous être fidèles et plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport.
Tous les sports. C'est sur Radio Sport.